Par actualité. Nous sommes aujourd'hui le mercredi 28 septembre 2016. Clotilde Seille en votre compagnie au micro de Canal M et vos titres aujourd'hui. Un virus du rhume pourrait se cacher derrière des maladies dégénératives. L'entrevue du jour avec Federico Puebla de du Coopératon de Desjardins en collaboration avec Hacking Health. On en parle avec lui. Et également en région, à Trois-Rivières, 3 millions pour améliorer des services de réadaptation. L'organisme du jour, Mélanie Boucher, coordonnatrice de l'association d'information en logement et immeubles adaptés en Montérégie. Et puis, actualité nationale et internationale, consultation Canada accessible, les Canadiens s'expriment à Whitehorse, Iqaluit et Yellowknife. Et puis, vous voyez un handicapé? Eh bien, cachez-vous, nous dit-on en Angleterre, évidemment, c'est de la dérision. Et également, on finira l'émission avec quelques nouvelles en rafale. Alors, il s'agit d'un papier d'Elisabeth Fleury dans Le Soleil. C'est daté du 26 septembre 2016, donc d'avant-hier. Et cela dit ceci, un virus du rhume derrière la sclérose en plaques et l'Alzheimer. Des chercheurs québécoises et britanniques auraient découvert pour la première fois une neuropathologie associée à une souche du coronavirus humain. Une percée qui pourrait confirmer le bien fondé de l'hypothèse du professeur Pierre Talbot du centre INRS, Institut Armand Frappier, voulant que ce virus, responsable d'environ un rhume sur cinq, puisse causer certaines maladies neurologiques d'origine inconnue comme la sclérose en plaques, l'Alzheimer, le Parkinson ou l'encéphalite. La découverte réalisée grâce à une collaboration britannico-québécoise a été publiée récemment dans le prestigieux New England of Medicine, a annoncé lundi l'INRS. En entrevue au Soleil, lundi, le professeur Pierre Talbot s'est réjoui de cette avancée. On avait démontré il y a une quinzaine d'années que le coronavirus humain persistait dans le cerveau des hommes, mais on n'avait pas encore prouvé qu'il pouvait causer des maladies. Cette étude avec Londres a démontré que le virus avait causé une encéphalite, une maladie dont l'origine est généralement inconnue, explique le chercheur qui est depuis longtemps convaincu de l'importance de s'intéresser de plus près au coronavirus humain. Le coronavirus chez une souris cause une maladie qui ressemble à la sclérose en plaques. Ça fait longtemps que j'essaie de démontrer que ça peut causer la même chose chez l'humain. Ce n'est pas fait encore, mais l'avancée dont on parle aujourd'hui nous démontre que le coronavirus peut causer une maladie neurologique grave et mortelle, résume le professeur Talbot, selon qui cette découverte permettra d'utiliser des traitements plus spécifiques et mieux adaptés sous la forme d'antiviraux à la condition des patients immunos. Déprimé. Et puis, sur un tout autre sujet, le cabaret Mont-Royal au profit de la Société pour les enfants handicapés du Québec tient sa 6e soirée bénéfice annuelle en présence de Chantal Petitclerc. Ça aura lieu demain, le 29 septembre. Donc, cette soirée bénéfice au profit de la Société pour les enfants handicapés du Québec, la SEHQ. Au cabaret du Casino de Montréal et c'est présenté par la Banque nationale et Desjardins. L'honorable Chantal Petitclerc, nous dit-on, sénatrice et détentrice de 21 médailles, faut-il le rappeler, paralympique, sera sur place à titre de porte et de nouvelle porte-parole de la SEHQ. Décidément, elle est vraiment partout, Madame Petitclerc. Par ailleurs, cette soirée bénéfice sera co-présidée par des membres respectés de la communauté des affaires, Pierre Boivin, Jean-R. Fabi et Christiane Germain. Toute la soirée, la musique et la danse seront à l'honneur sur le thème du rock'n'roll et les musiciens et chanteurs professionnels côtoieront sur scène femmes et hommes d'affaires qui ont accepté de dévoiler un talent artistique. Faut noter que depuis sa fondation en 1930, la SEHQ accompagne les jeunes vivants avec un handicap dans la réalisation de leurs rêves. Elle soutient également les parents dans leurs efforts à apporter toute l'aide, l'attention et le soutien dont leur enfant a besoin. Donc ce sera ce jeudi 29 septembre que se déroulera cette soirée bénéfice au cabaret du Casino de Montréal. Je vais m'adresser maintenant à Federico Puebla. Federico Puebla est directeur de l'innovation technologique chez Desjardins. Et bonjour monsieur Puebla.
Bonjour.
Bonjour. Écoutez, je suis ravie de vous parler parce que vous nous arrivez avec un projet, ben c'est plus qu'un projet, je pense que c'est carrément mis sur pied, une collaboration, un partenariat avec Akin Health, dont on a déjà parlé d'ailleurs à cette émission, et vous nous proposez un coopératon. Qu'est-ce que c'est que ce mot-là?
Donc, lorsqu'on parle de coopératon, d'abord, il faut définir c'est quoi un hackathon. Parce qu'à la base, on définit un coopératon comme un hackathon 2.0. Donc, un hackathon, c'est essentiellement un week-end où ce qu'on a des experts, par exemple, en technologie, dans un domaine bien précis, comme par exemple la santé.
Oui.
On se réunit ensemble, on collabore sur des solutions à des enjeux concrets pour que le dimanche du même week-end, on présente un prototype de la solution. Et donc, le coopératon, en soi, on a repensé à cette formule-là. On s'est dit qu'elle est géniale parce qu'il y a une grande intensité créative lors de ces week-ends. Mais en même temps, on n'a pas le temps pour penser aux contraintes. Donc, dans un premier temps, qu'est-ce qu'on a fait? On a donné plus de temps. Donc, on ne part pas d'un week-end. On laisse le choix aux personnes de travailler pendant un mois lorsqu'ils sont disponibles. Dans un deuxième temps, on s'est dit que c'est intéressant les côtés hacking, c'est-à-dire très technologique, hein, les cracks de l'informatique, les geeks qui viennent travailler. On s'est dit que ce serait intéressant de l'étendre et que ce soit pas seulement la technologie, mais qu'on puisse collaborer sur plusieurs facettes. À ce moment-là, on a changé de nom. On s'est dit, si l'accent n'est pas sur le hacking, mais l'accent serait sur la collaboration, la coopération. Donc, on parle plutôt d'un coopératon.
Oui, ben écoutez, merci beaucoup pour ces informations-là, parce que c'est vrai qu'on est toujours un petit peu perdu. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il va y avoir au programme cette année, M. Puebla?
Cette année, il va y avoir deux créneaux. Donc, on garde, comme l'édition 2015, le volet santé. Donc, il va y avoir des thématiques comme, par exemple, la santé au travail, les maladies chroniques, l'accès aux soins. Mais on rajoute aussi un deuxième volet cette année, qui est les fintech. Donc, c'est ça qui proche. Donc, on parle des technologies en santé. À ce moment-là, comment rendre les accès aux services financiers plus inclusifs? Comment, par exemple, offrir de nouvelles expériences aux milléniaux, la génération des milléniaux, par exemple.
Oui, d'accord.
Donc, ce sont les deux grandes thématiques pour l'édition 2016, fintech et santé.
Et qui peut participer?
Alors, c'est ça qui est intéressant, c'est que c'est ouvert à tout le monde. Donc, qu'on parle d'un étudiant universitaire, qu'on parle d'un professionnel de la santé, qu'on parle d'un professionnel des finances, un designer, tout le monde va joindre des équipes avec chacun son expertise dans le but d'avoir un impact social. Donc, on a des employés, il y a des Desjardins qui participent aussi, on a des experts de santé du CHUM qui participent, qui est un des partenaires.
Okay.
On a Finance Montréal, qui est un des partenaires ici, qui nous accompagne dans l'aventure. Puis on a récemment, puis on va l'annoncer ce soir sur le site web, aussi la Ville de Montréal. Donc, on parle des villes intelligentes et numériques, qui va lancer un défi lors du coopératon, accompagné de l'accélérateur et de nos cités, au niveau de l'accessibilité urbaine pour les citoyens.
Ah oui! Ah ben ça, c'est fantastique. Autrement dit, ces gens-là vont pouvoir déposer des projets pour faire avancer tout cela, l'accessibilité.
Exactement. Donc, la manière que ça marche, il y a un site web où les gens peuvent partager un défi. Moi, j'ai envie d'échanger tel aspect de la société. Et les gens peuvent se joindre au projet en cours. Donc, on spécifie, j'ai besoin d'un expert dans tel domaine, j'ai besoin d'un développeur, un codeur, un designer. Les équipes se forment, mais cette formation des équipes va avoir lieu le 7 octobre prochain.
Okay.
Dans les centres de recherche du CHUM, les nouveaux CHUM.
Oui.
Et pendant toute la soirée, ce qu'on appelle la mixologie sociale, il va y avoir ce jumelage des équipes en vue de faire la présentation le 4 novembre prochain, qui va être la grande finale dans le complexe des Jardins.
À ce moment-là, j'espère qu'on aura l'occasion de se reparler. Alors, après le 4 novembre, pour savoir quels seront les heureux élus, j'imagine que s'il y a choix, il y a quoi? Il y a jury? Qui sont les membres du jury?
Effectivement. Alors, le jury va être dévoilé le 7 octobre.
D'accord.
Ce que je peux vous dire, c'est qu'il y aura un jury fintech et un jury dédié aussi au volet santé. L'année passée, on avait des personnes comme les PDG de Nautilus qui étaient là, le chef de cardiologie de Sainte-Justine. Donc, c'est quand même des gens très spécialisés dans le domaine qui vont évaluer les projets.
D'accord. Ben, écoutez, on va peut-être se quitter en donnant un site Internet ou deux, une adresse ou deux. Si on fait coopératon.com, j'imagine qu'on peut s'inscrire.
Absolument, vous allez trouver des détails, des thématiques, la manière, les différentes démarches, une
D'accord.
description, et pour voir l'ensemble des projets qui sont déjà commencé à être soumis. Donc, vous pouvez
D'accord.
faire cooperaton16.sparkboard.com, mais même cette adresse-là fait partie du site web. Donc, avec cooperaton.com, vous aurez l'ensemble des URL.
Exactement. Après, on pourra cliquer sur compétition, par exemple, ou programme, ou tout ça, d'accord?
Exactement.
Bon, ben écoutez, Federico Puebla, je rappelle que vous êtes directeur de l'innovation technologique chez Desjardins. Innovation technologique, est-ce que c'est ce qu'on appelle vulgairement les TI?
Alors, les TI, c'est très large. Hein?
Ah
Donc,
bon, d'accord.
Moi,
alors, regardez, on va peut-être pas s'embarquer là-dedans, mais c'est parce que moi, c'est une question que je me suis toujours posée, parce que je me suis toujours demandé ce qui se cachait derrière les TI.
Ça me fera plaisir de vous en parler.
D'accord, Monsieur Puebla. Monsieur Federico Puebla, je vous remercie beaucoup pour cette initiative et on se reparlera après le 4 novembre, d'accord?
Ça va me faire plaisir.
Au revoir.
Au revoir.
Alors, en région, 3 millions de dollars pour améliorer des services de réadaptation. Ces travaux sont en cours sur le terrain de la résidence Cook à Trois-Rivières. La nouvelle construction réunira sous son toit les services de réadaptation offerts par le CIUS à la clientèle présentant une déficience motrice. À l'heure actuelle, ces services sont dispersés dans trois installations différentes à Trois-Rivières. Le programme d'achat d'équipements pour les activités de la vie quotidienne et de la vie domestique est situé au point de service Nicolas Perrault. Quant aux services d'aide technique, ils sont répartis dans deux points de service du secteur Sainte-Marguerite. La nouvelle construction permettra de pallier le manque d'espace qui est à l'origine de cette dispersion des services et en même temps, elle permettra au Centre intégré universitaire de santé et de services sociaux, le CIUS de la Mauricie et du Centre du Québec, de desservir convenablement la clientèle actuelle et d'être bien préparée à l'accroissement anticipé de la demande dans les prochaines années. Les travaux s'échelonneront jusqu'à l'hiver 2017. Porter plainte, c'est un droit dans le réseau de la santé. Le commissaire aux plaintes et à la qualité des services du CISO, Louis-Philippe Méran, n'arrête pas de le dire. Et lui qui a indiqué que son équipe a traité près de 1200 demandes d'assistance au cours de l'année 2015-2016, tout en ayant reçu 424 demandes d'examen de plaintes. En cours d'année, 46 recommandations ont ainsi été formulées et chacune est assortie d'une échéance pour laquelle le commissaire effectue un suivi. Les usagers du système de santé de l'Outaouais, car oui, c'est bien dans le droit que j'ai trouvé, que nous avons trouvé ce papier, merci beaucoup Anne-Laure Janson, c'est signé Justine Mercier. Eh bien, en Outaouais, les usagers du système de santé estiment que leurs droits n'ont pas été respectés et doivent faire entendre leur voix afin que les problèmes soient connus et que des solutions y soient apportées, insiste le commissaire aux plaintes et à la qualité des services, Louis-Philippe Méran. Beaucoup de plaintes portent sur des relations interpersonnelles, c'est-à-dire par exemple le manque d'empathie, l'abus de pouvoir ou des choses comme ça. Et beaucoup portent sur les services eux-mêmes, l'accessibilité, combien de temps ça prend pour avoir un service, etc., a indiqué M. Méran. Aujourd'hui, et j'imagine qu'elle est déjà au bout du fil, nous allons faire connaissance avec une association qui est l'Association d'information en logement et immeubles adaptés en Montérégie. Et j'ai au bout du fil Mélanie Boucher. Bonjour Mélanie.
Bonjour.
Alors je suis ravie de pouvoir vous parler aujourd'hui pour en savoir un petit peu plus. Et j'imagine que si moi je veux en savoir plus, les auditeurs aussi, du moins tous ceux qui habitent en Montérégie. Quelle est la mission de cette association?
En fait, notre association est là d'une part pour aider les gens à la recherche de logement, bien entendu, lorsque c'est possible, parce qu'on sait que les informations ne sont pas toujours accessibles lorsqu'il y a des logements accessibles ou adaptés qui sont disponibles. Mais okay. On est là aussi pour faire de la promotion, de la représentation et de la défense des droits dans le but d'avoir plus d'immeubles à logement, de logements et d'environnements bâtis plus accessibles.
Donc, les services que vous offrez aux personnes à mobilité réduite, c'est vraiment un service d'information?
Oui, à la base, oui, c'est un service d'information et de référence.
Ah, de référence
oui,
aussi.
tout à fait, parce qu'on ne détient pas naturellement toute l'information sur les logements qui sont disponibles, accessibles et adaptés. Donc, on peut parfois référer, mais le gros de notre travail, je dirais, se situe plus au niveau de la représentation et de la promotion pour qu'il y en ait de plus en plus, parce que malheureusement, c'est le problème actuellement, c'est qu'il y a très peu de logements accessibles et adaptés
oui,
qui
alors...
sont disponibles.
OK, je comprends. Mais alors, donc, les besoins, d'après ce que vous me dites, sont importants en Montérégie?
Tout à fait, tout à fait. Bon. C'est un besoin très important. Là, on reçoit plusieurs appels régulièrement. On nous dit, ben, j'aurais besoin d'un appartement ou doit. Puis malheureusement, souvent, on n'est pas capable de répondre à la demande parce soit qu'on n'est pas capable de les répertorier ou il n'y en a pas disponible, tout simplement.
Alors, ils font quoi, les gens, pendant ce temps-là? Ils attendent parfois dans des logements, malheureusement, qui n'est pas fait pour eux, quoi.
C'est... Tout à fait, tout à fait. C'est ce qui arrive. Et malheureusement, justement, en ce qui concerne l'adaptation, qui passe par le programme d'adaptation de domicile, ben, il y a des propriétaires ou les gens demeurent qui ne veulent, qui acceptent pas de procéder, d'implanter le programme. Donc, ils doivent rester tout à fait dans des conditions qui ne sont pas adéquates pour eux.
Quel type de représentation faites-vous?
On en fait beaucoup auprès des municipalités parce que c'est dans leur compétence l'habitation, naturellement, tout ce qui est logement. Donc, on travaille beaucoup avec les municipalités, notamment faire le lien avec le programme PAD, justement, programme d'adaptation de domicile, pour savoir qui sont les gens qui ont des logements adaptés. Ça nous aide un petit peu à savoir où ils se situent. Mm-hmm. Mais les gens demeurent très longtemps, souvent, dans un logement adapté, donc il n'y en a pas beaucoup disponibles. Mais on travaille aussi beaucoup en collaboration avec les autres organismes, autant locaux que régionaux, en logement pour justement essayer de travailler ensemble dans les besoins communs, là, parce qu'on sait qu'il y a tout l'accès au logement abordable aussi. Mais quand on parle de logement abordable, il faut aussi qu'il soit accessible pour les personnes qui ont une limitation fonctionnelle.
Oui, c'est sûr. Vous êtes où? Vous êtes situé où? Elle est où cette...
Nous sommes situés à Longueuil, mais on couvre une bonne partie de la Montérégie. Là. On tente de couvrir le territoire le plus largement possible. C'est sûr que nos demandes nous proviennent surtout de l'agglomération de Longueuil pour le moment, mais on tente de faire connaître nos services plus largement.
Et l'agglomération de Longueuil coopère donc?
Oui, oui, tout à fait, tout à fait. On a de plus en plus de collaboration de ces municipalités là dans le but de créer des liens pour le programme PAD, mais aussi qu'il y ait aussi une influence sur les gens qui vont construire les immeubles et qui vont mettre des mesures pour que ce soit plus accessible.
Pourriez-vous nous parler des concepts d'accessibilité et puis de l'importance quoi du principe de ce qu'on appelle la visitabilité des logements? C'est un mot un petit peu bizarre, mais je sais qu'il existe en anglais, alors on l'a reproduit en français, mais au début, je me suis dit, oh, il doit y avoir un tas de trop, mais non.
Oui, hein? Bien, on sait qu'on parle d'adaptation, d'accessibilité universelle. Bien entendu, dans la mesure la plus large, on tente d'appliquer l'accessibilité universelle parce que ça répond à l'ensemble de la population. Le concept de visitabilité a été développé parce que on sait bien que d'avoir un logement adapté, accessible, d'une part, c'est essentiel, mais on ne peut pas juste rester chez soi. On sait qu'on a de la famille, des amis, et souvent, c'est impossible pour les personnes d'aller visiter autre part que dans leur logement, parce que le concept de visitabilité, c'est ça, c'est de construire des immeubles qui vont permettre à l'ensemble de la population de se rendre aussi. Donc, une entrée plein pied, qu'il n'y ait pas d'escalier, donc que les portes soient assez larges pour passer, par exemple, avec un fauteuil roulant, qu'il y ait une chambre de bain au rez-de-chaussée, par exemple. Donc, ce sont des éléments qui permettent l'élément de visitabilité.
Oui, mais en même temps, si ce n'est pas visitable, ça veut dire que la personne, de toute façon, ne pourra jamais habiter dedans.
Elle ne pourra pas habiter dedans, mais le principe de visitabilité, c'est d'aller aussi sortir à l'extérieur, favoriser la participation sociale des gens et de rencontrer les autres membres, qui sont des membres de soutien.
Oui, je comprends.
Oui.
Et pourquoi on a l'impression que les besoins en matière d'immeubles et de logements accessibles sont mal connus et mal traités? Pourquoi, d'après vous? Pour finir.
Ben, en fait, je pense que c'est des besoins qui sont souvent individuels. Les gens sont souvent pris un petit peu dans leur isolement avec ces problèmes-là. C'est très peu parlé. C'est souvent une question, on dirait, qui est négligée aussi dans le langage des revendications, oui. Parce que, bon, on pense que c'est ça va de soi, mais non, malheureusement, ça va pas de soi d'avoir un habitat qui soit accessible pour y vivre et y fonctionner.
Et du coup, d'où l'utilité et l'importance de votre association, dont je rappelle le nom, Mélanie Boucher, l'Association d'information en logement et immeubles adaptés, dont vous êtes la coordonnatrice.
Oui, tout à fait.
Est-ce que je peux me permettre une question indiscrète? Êtes-vous vous-même en situation de handicap?
Oui, tout à fait. Je suis une personne non-voyante.
Alors, vous êtes une personne non-voyante.
Oui. Donc, on est au fait des problèmes vécus. Mon collègue qui travaille avec moi aussi a une déficience motrice. Donc, on travaille fort avec nos connaissances terrain, dans le fond, pour...
Eh bien, c'est superbe. Et on aura l'occasion de reparler de vous, Mélanie, et de cette association ici à Canalem.
Bien, je vous remercie beaucoup.
Mais je vous en prie, passez une belle journée,
merci.
Mélanie.
À vous aussi, au revoir.
National maintenant, les Canadiens expriment leur idée d'un Canada accessible à Whitehorse, à Iqaluit et à Yellowknife. La semaine dernière, le gouvernement du Canada a tenu des consultations publiques, les fameuses consultations publiques dont nous parlons beaucoup ici à Canalem. Alors ça s'est tenu, comme je vous le disais, à Whitehorse, à Iqaluit et à Yellowknife dans le cadre du processus de consultation visant à orienter la loi prévue sur l'accessibilité. Évidemment, l'honorable Carla Qualtrough qui dirige ces consultations, hein, elle qui est venue même nous en parler ici même, bon, par téléphone, mais on s'entend, a déclaré « Je suis ravie d'entendre directement des Canadiens leur vision pour un Canada accessible. Le gouvernement du Canada déploie d'importants efforts pour veiller à ce que tous les Canadiens bénéficient de chances égales dans leur collectivité et leur milieu de travail. Et il est énergisant d'entendre les suggestions des Canadiens sur la manière dont nous pouvons y arriver. Il s'agit d'une occasion incroyable qui aura une incidence historique sur des millions de Canadiens handicapés. J'encourage tous les Canadiens à participer à cette consultation. » Je vous rappelle que ce sont des propos tenus par l'honorable Carla Qualtrough. Également, un coup de pouce pour l'initiative Semer la joie. Nous nous transportons au Nouveau-Brunswick. La récolte automnale du projet Semer la joie à Grand Sault aura été plutôt bonne cette saison. Les organisateurs du projet ont récemment appris qu'une subvention d'un peu plus de 11 000 $ leur a été accordée dans le cadre du plan de réduction de la pauvreté du Nouveau-Brunswick. Ce sont le réseau d'inclusion communautaire du Nord-Ouest et la Société d'inclusion économique et sociale du Nouveau-Brunswick qui ont annoncé la bonne nouvelle aux organisateurs du projet, dont l'origine remonte au printemps 2015. L'initiative Semer la joie vise à procurer des plants de légumes à des personnes âgées à mobilité réduite ou ayant un faible revenu. Et c'est Émilie Gagnon, une ancienne étudiante de la polyvalente Thomas Albert de Grand Sault, qui est à l'origine du projet, une première du genre au Nouveau-Brunswick. En juin, plus de 125 plants de tomates, de laitues et d'oignons ont ainsi été distribués gratuitement dans différentes résidences de la région de Grand Sault. Et puis national toujours, les anciens combattants recevront de l'aide pour surmonter les obstacles à l'emploi. Aujourd'hui, le ministre des anciens combattants et ministre associé à la Défense nationale, l'honorable Kent Hare, a annoncé que les anciens combattants aux prises avec des problèmes de santé mentale reçoivent le soutien et la formation axée sur les compétences dont ils ont besoin pour trouver et conserver un emploi. Alors, dans le cadre de ce service, on offrira des services d'aide à l'emploi aux anciens combattants vulnérables, ceux qui souffrent, par exemple, de dépression, d'anxiété, de troubles de bipolarité ou de traumatismes liés au stress opérationnel. Ces services compléteront les programmes qu'Anciens combattants Canada offre actuellement aux anciens combattants pour les aider à réintégrer la vie civile et à trouver un emploi. Il faut rappeler qu'environ un ancien combattant sur cinq a reçu un diagnostic de trouble mental à un moment dans sa vie. Les troubles les plus courants sont, je vous le rappelle, la dépression, l'état de stress post-traumatique et l'anxiété. Et puis, à l'international maintenant, nous nous dirigeons au Royaume-Uni. Vous voyez un handicapé? Cachez-vous. Partant du principe que trop d'individus ne savent pas comment réagir lorsqu'ils croient une personne handicapée, Scope leur donne un petit guide sur la marche à suivre. Alors l'organisme Scope se bat pour que les handicapés puissent avoir droit aux mêmes opportunités et chances que quiconque. Ils ont choisi l'humour pour mettre en lumière des sujets du quotidien. Cet organisme qui communique cette fois sur la gêne trop souvent ressentie par ceux qui ne savent pas comment aller à la rencontre des gens différents. Alors pour éviter tout malentendu, Les équipes suggèrent un comportement simple. Si on voit une personne handicapée, eh bien, on se cache. Pas de panique, évidemment. Scope n'a pas perdu le fil de son discours. Ils n'ont pas non plus complètement perdu la tête. L'organisme joue en réalité avec intelligence sur un acronyme qui est HIDE, H-I-D-E en anglais, qui explique que le plus simple, c'est encore d'adopter une attitude normale. Selon Scope, 2/3 des gens paniquent ou ont peur de mal agir face à une personne handicapée. Le résultat direct, c'est que 40% des personnes handicapées ont déjà préféré cacher leur handicap par peur de subir des réactions négatives. Pour éviter d'en arriver là, la page dédiée de l'opération propose des conseils sur les choses à ne pas dire et les attitudes à adopter. Nous avons ici quelques nouvelles en rafale, je vais finir par le dire. Je vois écrit le mot « rapplique » et ça me donnait le mot « rappel » en bouche. Nous en avions parlé avec Linda Gauthier, décidément. Le « rapplique » en appelle à votre solidarité. Pour faire suite au communiqué, plusieurs cafés Starbucks ne veulent pas de clients handicapés. Et comme nous n'avons toujours pas obtenu la réponse de Starbucks, il est maintenant très clair que notre proposition n'est pas acceptée. Alors la voici telle qu'elle avait été présentée à Starbucks, adopter une politique d'accessibilité universelle, ouvrir de nouveaux cafés dans des lieux, des bâtiments universellement accessibles. Alors nous vous invitons à aller apprécier, donc c'est le rapplique qui vous invite à aller apprécier les excellents cafés et autres délices dans tous les Tim Hortons du Québec. Pour réagir contre Starbucks. Tim Hortons s'inspire des grands principes des chartes et ne se cache pas derrière les règlements restrictifs de la Régie du bâtiment du Québec ou encore le Code de construction qui discrimine toujours autant les personnes handicapées. On a besoin de bénévoles pour le porte-à-porte de Centraide. On a besoin donc de bénévoles. Rappelons que c'est Centraide Mauricie qui a besoin de bénévoles. Il faut rappeler que ceux-ci reçoivent une carte avec un segment de la ville et doivent parcourir leur secteur avec un berlingot identifié à Centraide pour amasser les fonds. Plus de 200 personnes sont sollicitées à chaque année afin de venir en aide à Centraide pour que la ville de Latuc ainsi que la Bostonnais, le Lacabos et la Croche soient parcourues, indique Sylvain Hudon, responsable de la campagne de financement. J'imagine qu'en vous adressant à Centraide Mauricie, vous aurez absolument toutes les informations. Et pour finir, j'avais envie de vous parler de cette rue syrienne dévastée. Vous vous demandez ce que ça vient faire là. Eh bien, elle a été recréée au cœur de Lyon par Handicap International. Aux côtés de la traditionnelle pyramide de chaussures pour sensibiliser aux impacts de la guerre, Handicap International a recréé dans Lyon une rue syrienne d'une ville syrienne. Et 40 semi-remorques ont acheminé de la terre, des cailloux et des façades d'immeubles dévastés sur la place Bellecour, en plein centre-ville de Lyon. Je vous rappelle que c'est une initiative d'Handicap International. J'ai vu les photos et c'est vraiment très, très touchant. Alors voilà, ainsi s'achèvent les paractualités pour aujourd'hui, 28 septembre. Merci Anne-Laure Janson, merci Jean-Sébastien La Liberté, merci à vous d'être là. C'était Clotilde Seille qui vous donne rendez-vous demain matin, 11h30.